Merci d'écouter RFI, 13h ici à Paris, 11h temps universel et à Nouakchott.
Baptiste Coulon.
Les Mauritaniens élisent leur président, les bureaux de vote ont ouvert ce matin et le président sortant espère bien briguer un nouveau mandat. Élection présidentielle aussi en Iran, cette fois on connaît les résultats. Un modéré et un ultra-conservateur se départageront au second tour. Nous serons aussi en Allemagne, dans ce journal. Le congrès de l'AFD, parti d'extrême droite, se tient dans un climat tendu, dans la rue comme en interne. Et puis l'Euro de football, 8e de finale, Allemagne-Danemark, ce soir, duel de revanchards. Près de 2 millions de Mauritaniens appelés aux urnes, élections présidentielles. Le président sortant, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est candidat à sa réélection. Il espère briguer un deuxième mandat. Face à lui, 6 candidats qui promettent d'incarner l'alternance démocratique. 4500 bureaux ont ouvert à 7h, temps universel ce matin. Notre envoyée spéciale, Léa Lisa Vesterov, s'est rendue dans le quartier populaire de Sebka pour observer le scrutin, précisément dans une école primaire transformée en centre de vote. Reportage.
Dans la cour sablonneuse de cette école primaire, ils sont plus de 200 à patienter sur plusieurs files indiennes. Cet électeur attend depuis presque 2 heures déjà, mais qu'importe.
C'est un moment crucial, parce qu'on doit élire un président. Un président, c'est pas n'importe qui. C'est quand même quelque chose de très important que tout le monde doit faire son devoir civique.
88, Hawa Alpha Diallo.
Même son de cloche, c'est cette femme de 30 ans vêtue d'une mélafa rouge, le voile mauritanien.
C'est un devoir d'un citoyen d'aller voter, de se présenter, de voter, de faire son devoir en fait.
Cet autre électeur est venu très tôt.
Parce qu'aujourd'hui il va faire très chaud à 40 degrés, donc pour le moment tout ça se passe très bien. J'espère qu'à la fin les PV seront affichés et tout va être normal.
L'affichage des procès-verbaux devant chaque bureau de vote prévu par la loi est une demande forte de l'opposition. Cette infirmière promet de revenir ce soir vérifier.
Reportage de Léa Lisa Vesterov. Les premiers résultats de cette élection pourraient tomber samedi dans la soirée. L'annonce officielle, elle, pourrait être annoncée dimanche ou lundi. En République démocratique du Congo, la rébellion du M23 a pris le contrôle de Kanyabayonga, ville stratégique à une centaine de kilomètres au nord de Goma. Au moins 2 civils sont morts, 5 autres ont été blessés. Ce conflit oppose le M23, soutenu par le Rwanda, aux forces gouvernementales dans l'est du pays. Après le Sénégal, le Togo va à son tour dépister les pèlerins de retour de la Mecque, dépistage du Covid-19. En plus de ce test, ils devront limiter les contacts, porter des masques et éviter les rassemblements pendant 10 jours. Le pèlerinage cette année a viré au drame. Près de 1300 morts en raison des très fortes chaleurs, selon les autorités saoudiennes, plus de 50 degrés. Mais des observateurs estiment qu'un certain nombre de ces décès pourraient être liés au Covid-19 contracté par les pèlerins sur place. Les élections présidentielles en Iran, et c'est officiel, 2 candidats accèdent au second tour, un réformateur, surprise de ce scrutin, et un ultra-conservateur. Les résultats définitifs ont été annoncés par le ministère de l'Intérieur avec plusieurs surprises de taille. À Téhéran, la correspondance de Siavosh Ghazi.
Tout d'abord, la participation se situe autour de 40%, soit le taux le plus faible d'une élection présidentielle. Pourtant, le pouvoir et les ténors du camp modéré et réformateur avaient multiplié les appels aux électeurs, mais 60% des Iraniens ont refusé de se rendre aux urnes, signe d'un mécontentement profond dû à la dégradation de la situation économique et la répression du mouvement de protestation qui avait suivi la mort de Mahsa Amini en septembre 2022. Le candidat réformateur Massoud Pezeshkian n'obtient que 40% des voix. En face, le candidat ultra-conservateur arrive en seconde position avec un peu plus de 38% des voix. Si on ajoute à cela les 14% obtenus par le conservateur Mohamed Bayer Ghalibaf, le camp conservateur obtiendrait plus de 53% des voix. On s'oriente donc vers un second tour entre le réformateur Massoud Pezeshkian et l'ultra-conservateur Saïd Jalili. Dans ce cas, le choix des abstentionnistes sera déterminant pour le second tour. Ces prochains jours diront si les réformateurs vont réussir à mobiliser davantage leur électorat traditionnel, mais les choses s'annoncent plutôt difficiles. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Et le second tour de cette élection présidentielle iranienne est prévu le 5 juillet prochain. La guerre à Gaza, le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 37 800 morts. Des dizaines de milliers de nouveaux déplacés ont fui la ville de Gaza après de nouveaux combats hier entre l'armée israélienne et le Hamas. La défense civile de l'enclave parle de nombreux morts. D'autres frappes israéliennes ont eu lieu dans le centre de la bande de Gaza, à Deir el-Bala, à Nusayrat, mais aussi dans le sud du côté de Khan Younes et de Rafah. En Russie, au moins 5 morts dans une attaque ukrainienne menée avec des drones, attaque dans la région frontalière de Koursk, c'est ce qu'annonce le gouverneur russe de cette région. En Allemagne, ouverture aujourd'hui du congrès de l'AFD, le parti de l'extrême droite allemand. Cela se passe à Essen, dans l'ouest du pays, 3 semaines après les élections européennes où l'AFD est arrivé en 2e position derrière les conservateurs, réalisant au passage son meilleur score depuis sa création. Le congrès se tient sous haute tension, quelques violences et des arrestations enregistrées notamment par la police. Un congrès tendu aussi en interne au sein même du parti, entre la frange la plus radicale et ceux qui se qualifient de modérés. Romain Lemaresquier.
600 délégués de l'AFD ainsi que plus de 600 invités sont attendus pour les 2 jours du congrès de cette formation d'extrême droite. Un congrès au cours duquel il sera question notamment de changer le mode de direction bicéphale. En effet, une motion a été déposée pour que désormais un seul président, flanqué d'un secrétaire général, gère le parti. Actuellement, l'AFD est dirigée par Maximilian Kra et Tino Chrupalla, c'est-à-dire un membre de la branche la plus radicale et un membre considéré comme modéré. Et si la motion proposant le changement de mode de direction est approuvée, les deux camps pourraient bien s'affronter pour prendre la main sur le parti. Car depuis plusieurs mois, les déclarations des plus extrémistes sont mal perçues par une partie des membres de l'AFD qui plaident pour changer d'approche en se professionnalisant comme le Rassemblement National Français, une sorte de dédiabolisation qui pourrait permettre à cette formation d'élargir son électorat. La question aussi de la place de ce parti au Parlement européen divise. Les plus radicaux souhaitent créer un nouveau groupe d'extrême droite après leur exclusion du groupe ID, Identité et Démocratie, alors que les plus modérés souhaite au contraire rejoindre les autres formations d'extrême droite des pays membres dans un large groupe qui aurait plus de poids au sein de l'institution européenne.
Les bureaux de vote ont ouvert il y a moins d'une heure à Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire français. On vote dès aujourd'hui pour les élections législatives anticipées dans certains territoires d'outre-mer qui se tiennent donc ces élections demain dimanche en France métropolitaine. Depuis hier minuit, vous l'avez peut-être constaté, c'est silence radio, plus de tracts et de réunions publiques pour les candidats, plus d'interviews politiques non plus dans les médias. C'est la règle la veille du scrutin. L'actualité en France, sa mort avait provoqué plusieurs nuits d'émeutes en France un an après la mort de Naël, 17 ans, tué par un tir de policier à Nanterre près de Paris lors d'un contrôle. Un hommage et une marche blanche organisée ce samedi à Nanterre. Elle s'élancera à partir de 14h tout à l'heure, heure de Paris, midi. Temps universel. L'Euro de football et les premiers huitièmes de finale se jouent aujourd'hui. La Suisse face à l'Italie, tenante du titre, à partir de 16h, temps universel. Et Allemagne, Danemark, à 19h, temps universel. Match que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct et en intégralité sur Radio France Internationale. Les Allemands ont fini premier de leur groupe. Ils sont en confiance, mais ils ne sous-estiment pas non plus un Danemark qui ne leur a pas toujours souri. Antoine Grenier.
Pour toujours une revanche. Quand deux nations s'affrontent un jour en finale d'un euro, leurs confrontations suivantes ne sont jamais anodines. Et encore plus quand, lors de cette finale, le favori allemand tombe face à l'outsider danois. C'était à Göteborg en 1992. Au-delà du souvenir, allemands et danois se retrouvent en huitième de finale cette année après une coupe du monde ratée dans les grandes largeurs, les deux nations ayant été éliminées au premier tour au Qatar. Mais pour le Danemark, l'euro, c'est spécial, reconnaît Yannick Vestergaard, le défenseur des Rouges et Blancs.
L'euro 92, en tant que Danois, on en entend beaucoup parler. C'est quelque chose qui vous accompagne quand vous grandissez. Le Danemark était un outsider qui ne s'était même pas qualifié au départ. C'est une mentalité qui nous porte, celle de vouloir embêter les favoris. Et les Allemands, devant leur public, seront clairement les favoris.
Face à l'état d'esprit danois, Julian Nagelsmann, le sélectionneur allemand, mise lui sur le soutien populaire au-delà des 60 000 supporters du stade de Dortmund.
C'est spécial de voir toutes les images des villes d'Allemagne qui célèbrent nos buts, comme celui contre la Suisse en fin de match. C'est toujours des moments spéciaux. Quand on parle de la Coupe du Monde ici en 2006, on parle moins des résultats que de l'ambiance. On va essayer de continuer de gagner pour créer de nouvelles images et de nouvelles vidéos comme ça dans les fan zones, au moins jusqu'à la semaine prochaine.
Antoine Grenier, Dortmund, RFI.
Et puis ça y est, le Tour de France cycliste s'est élancé tout à l'heure, un peu après midi, heure de Paris. Première étape en terre italienne et c'est une première à départ de Florence, arrivée aux alentours de 17h tout à l'heure, heure de Paris, à Rimini, toujours en Italie. Une étape accidentée avec plusieurs cols et 200 km au programme. Voilà pour l'essentiel, 13h et bientôt 10 minutes ici à Paris. Merci d'écouter RFI.